Hello, friend.
Il t'a déjà baisé ici sur le canapé?
Non, pas encore.
Jan, director inside sales. They call me Jan the man.
Oh.
When you say people, you mean companies, right?
Actually, no, sorry. Jan the man. By people, I do mean people, humans, consumers.
Cocksucker!
Yeah, glad to tell you that fucking word.
I'll tell you what I think. Wanna know what I think, Fox?
I'm hanging on it.
Are you? I think you're upset about the shushing. I think you were pissed off about the Hitler mustache on your father-in-law. I think you shook up that can of soda on purpose. And I think you're clomping now, and you've made up some bullshit excuse about your feet, and it's all under the guise of Parkinson's. That's what I think.
Rouge, c'est non. Double rouge, c'est double non.
The situation's a lot more nuanced than that.
You think I'm really boring, don't you? Well, get used to it, because now that your father is dead, you can forget about ever going to law school. It's just you and dead people and freaks like me for the rest of your life.
You know, everyone says it's not supposed to make sense, like that's the whole point, dude. And I'm just saying, you know, that's like an excuse for lazy storytelling. Just don't sell me shite and tell me it's gold. All right, I might be stoned, but I'm not high. You know what I mean?
We are God. We're thoughts. We are as
are you an idiot?
No, sir, I'm a dreamer.
Bien le bonsoir, c'est reparti pour une nouvelle édition de votre émission qui vous parle, série télévisée avec Aurore. Bonjour Aurore.
Bonsoir même.
Ça va bien?
Ça va bien.
Bon ben voilà, hein, c'est Série Folie, nous sommes repartis pour une heure ensemble. On va parler série télévisée avec ben, les petites habitudes, c'est-à-dire que premièrement on va revoir les nouveautés que tu as pu visionner pour nous ces derniers jours. Et puis on abordera comme d'habitude un sujet qui te porte à cœur cette semaine.
Exactement.
Bien le bonsoir. Alors, quelles sont ces fameuses nouveautés que tu as pu visionner pour nous?
Alors, je vais commencer par la première qui s'appelle White Gold. C'est une série anglaise proposée, me semble-t-il, par la BBC Two et qui se déroule, je dirais, dans les années 80, si j'en crois la musique.
Ah oui, c'est cette fameuse série où j'ai dit, bah, ça fait du bien d'entendre de la musique des années 80 sur des images des années 80.
oui, de fait, ça fait moins ringard quand c'est dans ce sens-là.
Ben, on redécouvre des titres musicaux. Au minimum, qui, bah oui, tout d'un coup prennent une autre envergure.
Oui, tout à fait. Ça, c'est vrai que c'est un point positif pour la série, c'est qu'on a l'occasion de vraiment être imprégné de cette musique-là, mais dans une ambiance qui lui correspond bien. Donc, ça, c'est vrai que c'est pas mal. On suit en fait un homme d'une trentaine d'années qui se présente lui-même comme... comment on pourrait le traduire? Un connard, je crois, un truc dans ce genre-là.
Ouais, c'est pas un exemple à suivre.
De fait, c'est pas un mec très très fréquentable. En gros, il a... Je sais pas si tu vois un petit peu les winners des années 80 qui avaient la gagne et qui voulaient avoir plein d'argent. Et c'est un petit peu ce modèle-là qui s'est mis en tête. Et donc, il est persuadé d'être le super nouveau self-made man de l'Angleterre, j'imagine. Et tout ça... Pourquoi ? Parce qu'il est chef d'une petite équipe qui vend des fenêtres, des châssis en PVC dans toutes les maisons du quartier. Ce qui fait que les personnes de son village ou de sa ville s'endettent toutes plus ou moins pour pouvoir se payer des nouveaux châssis parce qu'il a tellement la tchatche. Lui est au moins un de ses collaborateurs parce que l'autre c'est peut-être un petit peu moins gagné qu'ils arriveraient à vendre à peu près n'importe quoi à n'importe qui. Et d'ailleurs ils en jouent pas mal en se lançant des défis, etc. Ils ajoutent à tout ça une vie un petit peu de débauche où dès qu'il faut fêter quelque chose, eh bien on rameute les prostituées et le champagne, et puis on fait tout couler à flot, si je peux m'exprimer ainsi.
Bien, oh. Alors on poursuit.
Donc voilà, ça c'est le pitch de départ. Cet homme, par ailleurs, est marié, a deux enfants, mais tu t'en doutes un petit peu, c'est peut-être pas son absolue priorité dans la vie. Son absolue priorité, c'est vraiment d'être un gagnant, quoi, et d'être reconnu comme étant un super... un mec vraiment...
Qui réussit, qui vend, qui se fait de l'argent.
Voilà, exactement. Le fait est que ce personnage est joué par Ed Westwick, que l'on connaissait notamment pour son rôle dans Gossip Girl. Et ben, du coup, le physique va assez bien avec le propos, sauf que dans la série, malgré tout, il n'est pas aussi gagnant qu'il aimerait bien le croire. C'est quand même un petit peu un loser aussi, hein. Au fur et à mesure que la série se déroule. Pour le moment, je n'en ai vu que 4 épisodes sur 6, mais on voit bien que il y a quand même certains moments où c'est loin d'être la gloire et la joie pour lui. Et dans ces moments-là, je dois avouer que peut-être que le choix de cet acteur-là joue un petit peu en la défaveur du propos, parce que même quand il est dans des moments de grosse lose, on n'arrive pas totalement à croire que c'est un gros loser, tu vois. Et ce serait un acteur un petit peu moins... un petit peu moins marqué par un personnage joué précédemment, justement extrêmement riche, extrêmement puissant, etc. J'imagine que ça doit jouer aussi dans l'ensemble de l'image qu'on se fait de cet acteur-là. Mais du coup il a un peu trop la classe pour vraiment que ces moments de lose soient crédibles. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Et de fait, en dehors de lui, il est quand même entouré par des gros
des vraiment poulets, des quoi, gros, hein, oui, c'est ça. Eux, ils n'ont qu'un... comment dire, aucune aura positive et de gagnant.
Oui, non, clairement pas. Et en plus de ça, bon, le milieu dans lequel il évolue n'est pas extrêmement glamour non plus. On peut pas dire qu'il soit au top de la réussite sociale non
pour
plus.
Pour les années 80, c'est super glamour.
Oui, peut-être. Enfin, donc voilà, c'est peut-être... Là où c'est dérangeant, en fait, c'est parce que assez régulièrement, on a un scénario qui le présente vraiment comme un gros connard, quoi. Il y a pas d'autre mot, mais il a tellement la classe qu'au final ça passe quand même.
Et on s'attache un petit peu.
Voilà. Alors que s'il avait été un petit peu plus comme ses acolytes, mais le message de du mec quand même assez misogyne, notamment arnaqueur, à la morale très très douteuse, etc. Ce message-là serait peut-être un petit peu plus passé. Donc c'est pour ça que je me dis que le choix de l'acteur, à la fois ça correspond très bien à l'image qu'il veut se donner, à la fois c'est un petit peu comme dans Fight Club, tu vois, il y a l'image qu'on veut se donner et puis il y a le personnage qu'on est vraiment, et là on a l'impression qu'ils ont choisi de prendre l'acteur Brad Pitt, alors que peut-être ils auraient dû prendre Edward Norton. Je sais pas si je me fais comprendre.
Ok, non, oui, si, oui. Si. En gros, il est trop bien pour le... Enfin, il ne colle pas tout à fait au personnage qu'on voudrait avoir.
Oui, voilà. Il colle un petit peu trop à l'image qu'il aimerait bien donner de lui, et du coup, ben, ça ne permet pas d'avoir le recul nécessaire. Bon, il n'empêche que c'est assez plaisant à suivre, et pas que pour la musique. Il parle très régulièrement en face caméra, donc il nous prend à partie sans arrêt, justement, pour se vanter, pour montrer à quel point il est le meilleur, etc. Donc ça je dois dire que c'est assez bien réussi. Ça n'est pas lassant, on se dit pas oui bon il en a pas marre de nous parler sans arrêt. Non, ça passe assez bien, et étant donné qu'il n'y a pas énormément d'épisodes vu que c'est une série anglaise, Bon, le temps passe assez vite finalement. Je crois que en plus ce sont des épisodes d'une trentaine de minutes. Donc voilà, c'est assez vite plié quand même.
Voilà.
C'était pour la première série.
Alors, il va falloir faire un peu plus court pour les deux suivantes. Hein.
Oui, on va se dépêcher. Alors, je vais prendre pour la suivante... justement, je vais en prendre une qui ne m'a pas plu du tout, qui s'appelle Daytime Divas.
Ah oui, le show télévisé que des charmantes
oui,
dames.
Exactement, je l'ai regardé hier avec toi.
Le temps m'a paru très long.
Oui, moi aussi, le temps m'a paru assez long, je dois l'avouer. Donc, ça nous parle de quoi ? Ça nous parle d'une grande star de télévision qui a une émission de journée consacrée aux femmes et dans laquelle elle est entourée de plusieurs collaboratrices féminines, évidemment, hein, chacune avec un caractère assez bien défini. On a la comique, on a la sérieuse, on a la petite jeune et on a la super chrétienne. Par la malchance, on va dire ça comme ça, suite à une petite opération, elle va se retrouver dans le coma. Alors qu'on aurait peut-être pu s'imaginer que toutes ces collaboratrices allaient au moins prendre le temps d'un petit peu s'inquiéter pour elle. Non, en fait, c'est la course à savoir qui va prendre sa place durant le temps où elle restera dans le coma. Et donc, chacun place ses pions de manière totalement... pas fine du tout, je sais pas comment le dire d'autre. C'est vraiment un gros je sais même pas si on peut dire que c'est pas un soap, mais ça a le côté très très gros, très très vulgaire, etc. Qu'on pourrait imaginer d'un soap, mais en pire. Je sais pas comment dire ça. Je sais pas comment dire ça. Oui, ça m'a vraiment paru, mais déjà extrêmement peu intéressant et très vulgaire, mais en plus donnant une image de la femme à laquelle j'adhère pas du tout. Et donc voilà, ça m'a pas beaucoup plu, quoi.
Voilà, bah écoute, on peut clôturer là, tu sais, on a compris.
Tu crois que ça
c'est inintéressant,
suffira?
Mais oui, bien sûr.
Oui, bah je crois aussi qu'on peut laisser tomber. Je terminerai avec la dernière série. Cette fois-ci, il s'agit à nouveau, parce que White Girls, c'était quand même un petit peu sur le ton de la comédie, d'une comédie, mais cette fois-ci américaine. C'est une comédie qu'on attendait finalement depuis longtemps, puisqu'on avait vu le trailer il y a un an. Hein. Ça s'appelle Downward Dog. Et je crois que c'est sur ABC, mais si je me trompe, ne me gronde pas, s'il te plaît.
Je ne te gronde pas, je n'en sais rien. Donc, voilà.
De quoi ça nous parle ? Ça nous parle d'un chien. Enfin, c'est pas tellement que ça nous parle d'un chien, c'est un chien qui nous parle, en fait.
Déjà.
C'est un chien qui nous raconte un petit peu sa vie, ses états d'âme, ses sentiments, etc. Dans sa vie avec sa maîtresse. Sa maîtresse qui est jouée par l'actrice dont j'ai oublié le nom, mais dont tout le monde se souviendra comme l'actrice principale de Fargo saison 1, qu'on est très très heureux, je crois, de retrouver. Il faut avouer que le pitch faisait très très peur, hein, parce que regarder un chien qui parle, même si c'est seulement pour des épisodes de 20 minutes, ça fait plutôt peur. Et c'est vrai que le premier épisode laisse un petit peu...
Pantois.
Oui, on ne sait pas trop quoi en penser. C'est pas totalement inintéressant, mais en même temps, est-ce qu'on va vraiment avoir envie de suivre ça pendant très longtemps ? Et j'ai envie de dire, au bout de 3 épisodes, que oui, je crois que j'aurais envie de suivre ça pendant très longtemps, en fait. Parce que vraiment, je trouve qu'ils arrivent à mettre dans la bouche de ce chien, dans la gueule de ce chien, des pensées, des sentiments vraiment très intéressants auxquels on arrive tous d'une manière ou d'une autre
à s'identifier.
Oui, il y a des réflexions existentielles sur finalement l'amour, ce que ça devient au bout d'un certain temps, ou je sais pas, des trucs dans ce genre-là.
C'est un chien qui parle, ok, mais dans la description, ça se rapporte aux relations humaines finalement.
Oui, c'est ça, puisque lui-même se présente parfois comme un chien, mais parfois comme un humain. Donc la frontière, lui, a pas l'air de bien voir la frontière. Pour lui, il a une relation avec sa maîtresse. Point. Il y a pas vraiment de différence entre deux. Donc à ce niveau-là, c'est vrai que ça nous parle simplement de c'est quoi avoir des relations parfois de dépendance, des relations d'amour fou, d'admiration envers quelqu'un ou ce genre de choses-là.
Ou de déception,
la trahison, etc. Donc c'est vraiment étonnant et je dois dire plus j'en regarde et plus j'ai envie d'en regarder parce que c'est super attachant. Et en plus, il y a, me semble-t-il, à chaque fin d'épisode, une petite séquence onirique où le chien imagine, soit t'es en train de rêver, soit fantasme quelque chose avec un autre personnage de la série. Et c'est toujours assez drôle. Donc, ils arrivent à être à la fois relativement profond, à la fois plutôt drôle et léger. Les personnages humains, en tout cas les deux principaux que j'identifierais, c'est-à-dire la maîtresse Nan, c'est comme ça qu'elle s'appelle, et son ancien petit ami, même si les choses sont pas tout à fait claires, qui est l'acteur peut-être que certains reconnaîtront, qui jouait dans Raising Hope, qui jouait le personnage principal de Raising Hope, qui est totalement transformé là aussi, et ça fait plaisir de le revoir aussi. Et donc ce sont deux acteurs qu'on aime beaucoup, qui se donnent vraiment à fond dans un projet où finalement on pourrait se dire mais ça doit être un peu frustrant pour un acteur de pas être le rôle principal et de laisser quelque part le rôle principal à un chien. Mais vraiment, j'ai l'impression que c'est fait avec beaucoup de générosité, beaucoup de simplicité, et je suis un petit peu tombée sous le charme de cette comédie-là, je dois dire.
Magnifique, ben voilà, on a ton point de vue sur les nouveautés de la semaine.
Oui.
La suite, eh bien, on va marquer une pause musicale, si tu le veux bien.
Ben écoute, je veux bien. Alors, on va s'écouter Relax de Frankie Goes to Hollywood, entendu dans White Gold.
Why?
la suite de Série Folie, l'épisode 32 de la saison 4 avec le sujet du jour, Aurore.
Alors, tu te souviens qu'on a parlé du personnage de White Gold qui essayait de se faire passer pour un winner alors que peut-être parfois c'était un peu un loser? Eh bien, on va parler de ça, on va parler des winners et des losers, tout simplement. Le sujet, il m'a été inspiré par cette série-là. Et puis finalement, quand j'ai passé en revue tout ce que je pourrais dire sur le sujet, je me suis rendu compte que c'était un sujet absolument central et je comprends pas pourquoi j'y avais pas pensé plus tôt, en fait. C'est un peu bête, hein, mais parfois il y a certaines idées qui nous passent sous le nez sans qu'on s'en rende compte. Donc, on va essayer de remédier à tout ça, puisque finalement, dans les séries, même si c'est vrai, malgré tout, la plupart du temps, c'est évidemment pas le cas tout le temps, mais généralement, les héros finissent quand même par arriver à leur fin. Les policiers finissent par arrêter le coupable. Les médecins finissent par sauver la personne qu'ils sont censés sauver. C'est évidemment pas tout le temps, mais c'est quand même, à mon avis, plus fréquent que le contraire. Donc on pourrait se dire, mais finalement, la série, elle va plutôt favoriser l'idée qu'on a affaire à des winners, à des vrais héros positifs, etc. Sauf qu'en fait, si l'action, en effet, est souvent réussie, par contre, elle est souvent accomplie aussi par des figures de losers, c'est-à-dire... Un héros qui a ses failles,
qui n'est pas parfait,
qui est loin d'être parfait. Alors c'est pas toujours le cas, hein. Malgré tout, il y a aussi des figures positives. Étonnamment, pour le moment, c'est quand même beaucoup du côté soit des consultants, soit du côté des milliardaires entrepreneurs, qu'on va avoir ces figures comme ça, un petit peu héroïques, positives, ou avec leur super connaissance, leur super intelligence, leur super fortune aussi, et leur super compétence en ingénierie ou que sais-je, ils vont réussir à un petit peu sauver la veuve et l'orphelin. Je crois qu'on peut tous penser à des séries souvent procédurales dans lesquelles on a ce genre de héros-là, mais en fait, même ces héros-là, comme c'est quand même plus intéressant de leur donner quand même une faille ou deux que de les présenter comme totalement parfaits, bien souvent, même eux seront affublés de quelques défauts qui les humaniseront un minimum.
Oui, bah c'est ça, on n'est pas tout winner ou tout loser, enfin, loser peut-être, mais les winners ont aussi leur part d'imperfection.
On essaie quand même de pas être trop monolithique, parce que sinon personne n'y croirait. Déjà comme ça, il faut avouer qu'il y a certains héros de séries qui sont assez peu crédibles. Hein,
ouais,
donc,
ouais.
Donc voilà, mais ça c'est pour les figures positives qui, comme je l'ai dit, sont pas majoritaires. À part ça, comment est-ce qu'on va nous présenter les winners, hein, la réussite? Ici, je parle vraiment de réussite sociale, hein, au sens où, justement, on pouvait l'entendre dans les années 80, où c'était un petit peu l'idée de la gagne, si tu vois ce que je veux dire. Donc, la réussite, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'elle n'est pas ce qu'elle paraît. Ça, c'est la première chose. Il y a toujours l'idée du faux-semblant, des apparences. En fait, derrière cette façade dorée se cache soit un milieu totalement pourri où tout le monde se tape dans les lattes, où il y a des rapports de pouvoir incessants qui font qu'il n'est jamais possible d'avoir des relations saines et un peu équilibrées avec les gens. Au contraire, c'est tout le temps des disputes, des coups dans le dos, etc., pour essayer d'accéder au pouvoir. Je crois que des séries qui nous représentent comme ça, des milieux très aisés dans lesquels on a plutôt cette représentation-là de, justement, de la richesse. On peut tous en avoir en tête, que ce soit les vieilles séries du genre Dallas, Dynasty ou je sais pas moi, Santa Barbara, Côte Ouest ou que sais-je encore. Mais aussi des séries un peu plus récentes, comme par exemple, j'avais cité Gossip Girl tout à l'heure, mais ça peut être aussi un exemple dans ce genre-là où on est dans un milieu très aisé et tout le monde se fait un petit peu des coups de pute dans le dos. Donc ça, c'est la première chose. Elle n'est pas ce qu'elle paraît. Parce que le milieu est pourri, mais aussi parce que finalement, une fois qu'on est tout au sommet, on est bien seul. Hein.
Ça aussi, oui.
Forcément, oui. La réussite, c'est aussi bien souvent la solitude. Et donc, on va nous présenter des personnages qui finalement ont tout, mais qui n'ont plus rien à rechercher et qui donc se retrouvent seuls dans leur grande maison ou leur grande villa, totalement désœuvrés, à se droguer, à déprimer.
Riche.
Voilà, c'est tragique, je sais, mais ça arrive. En
chacun
tout cas,
ses problèmes. Hein.
Ça arrive souvent dans les séries. Ça, c'est la manière dont on nous représente vraiment les personnes qui ont réussi socialement, qui ont tous les extérieurs de la richesse. On nous présente aussi la réussite comme étant un chemin long et exigeant. En gros, on va nous présenter des personnages aussi qui ont réussi à se hisser jusqu'au sommet, mais on va nous montrer tous les efforts, toutes les concessions, tous les obstacles qu'ils ont dû franchir pour ça, et on va beaucoup insister dans certaines séries sur tous les sacrifices que ça demande d'arriver jusqu'au sommet, justement. Je sais pas, moi, on peut penser par exemple à une série comme Feud, par exemple, où on a deux actrices qui sont plus ou moins au sommet de leur gloire, même si cette gloire, elles doivent se battre sans arrêt pour pouvoir la maintenir au sommet, justement. Elles sont extrêmement seules, chacune de leur côté, et donc on a cette représentation là. Je pense aussi à une série comme Empire, dans laquelle on a aussi une famille qui a plutôt réussi socialement, mais qui a dû se déchirer et passer par les pires atrocités pour pouvoir se hisser là. Alors, la série Star, que je n'ai pas continuée, je dois l'avouer, mais qui semblait aussi se diriger vers ça, c'est-à-dire des jeunes orphelines qui ont vécu des choses très très difficiles dans leur jeunesse et qui, espérons-le pour elles, arriveront peut-être au sommet de la gloire. Étant donné que je n'ai pas été jusque-là, je ne peux que le supposer. Tu vois de quoi je veux parler, quoi. On a quand même régulièrement aussi cette représentation-là. Ça peut être aussi dans la série Nashville, où on a des héroïnes, des chanteuses country qui ont dû faire pas mal de concessions, pas mal de sacrifices pour en arriver là où elles en sont. Et bien souvent, si elles ont réussi, une des conditions, je dirais même presque là, condition sine qua non pour pouvoir réussir, c'est qu'il faut avoir la foi. Pas la foi religieuse, c'est pas de ça que je parle, c'est vraiment croire en soi, croire en son destin, croire qu'on est fait pour ça, et si tu y crois, quelque part, tu finis par y arriver. Donc il y a vraiment ici une sorte d'idée que la réussite, c'est l'autoréalisation, et l'autoréalisation, elle se concrétise parce que tu as confiance en toi. Donc tout repose en toi pour pouvoir réussir. Tu ne peux compter que sur toi-même, avec tes propres ressources, etc. C'est quelque chose de finalement très très personnel et individuel, la réussite telle qu'elle nous est représentée dans ce cas-ci. Donc ça, c'est la manière dont la réussite peut nous être présentée. à nouveau plutôt du côté de ceux qui ont réussi et qui, dont on nous retrace finalement tout le chemin pour en arriver là. Maintenant, on va aussi nous représenter beaucoup de gens qui n'ont pas réussi ou qui n'arrivent pas, qui sont soit totalement bloqués, angoissés, ils sont dans l'impossibilité de réussir pour une raison ou pour une autre. Alors, bien souvent, mais comme je l'ai dit, pour réussir, il faut avoir la foi. Donc du coup, ceux qui ne réussissent pas, c'est bien souvent qu'ils n'y croient pas assez, ils sont peut-être un petit peu trop cyniques, ou bien ils ont trop de doutes sur eux-mêmes, ils sont torturés par leurs démons, etc. Et donc, on va avoir, grâce à cette représentation-là, cette fois-ci, cette représentation négative de la réussite comme une angoisse existentielle à laquelle on n'arrive pas à accéder alors qu'on a le potentiel pour y accéder, ça va nous permettre d'avoir plein de figures de losers magnifiques qui sont, j'ai l'impression, vraiment une sorte de figure tragique omniprésente dans les séries principalement américaines. Il faut encore bien le dire qu'ici, c'est beaucoup des séries américaines dont il s'agit. Ce sont des figures qui inspirent énormément la sympathie. Et en même temps, j'imagine aussi que ce sont des personnages qu'on retrouve souvent parce que finalement, des personnages qui n'ont pas encore réussi à accéder à leur bonheur, ben, c'est aussi
peut-être un peu plus proche et plus proche de la vraie vie, finalement.
Oui, aussi. Mais aussi, on sait que les gens heureux n'ont pas d'histoire, donc nous présenter des gens qui n'ont pas réussi à s'accomplir eux-mêmes, c'est aussi avoir des gens qui ont encore tout à raconter sur eux-mêmes, quelque part. Donc voilà. Et évidemment, en effet, comme tu le dis, ben, ça permet probablement une plus grande identification. Une
proximité avec la plupart des gens, je crois.
Avec la plupart des gens. Oui.
C'est pas qu'on ait tous raté notre vie ou réussi, mais je veux dire, on est plus dans une quête de quelque chose que d'avoir déjà atteint notre objectif.
Oui. Voilà, je crois que même quand on est au sommet, on n'est jamais totalement au sommet. Ces losers magnifiques souvent nous sont présentés comme étant extrêmement intelligents. Alors je te cacherai pas aussi que ce sont presque exclusivement des hommes qui sont représentés comme des losers magnifiques et qui sont dans l'auto-sabotage total pour une raison ou pour une autre. Alors on va avoir plusieurs types de personnages comme ça. On a soit les génies, mais qui sont tellement arrogants que finalement ça joue contre eux. Par exemple, Dr. House, qui est probablement le plus emblématique dans ce sens-là. C'est vraiment celui qui aurait tout pour réussir, mais qui est tellement pas prêt à faire des concessions, qui est tellement parfois un but de lui-même, mais aussi probablement rongé par tellement de doutes intérieurs qu'il n'arrive pas à accéder au statut qu'il mériterait peut-être, en tout cas que son intelligence mériterait. Donc c'est bien souvent un potentiel inexploité, soit totalement inexploité, où on a vraiment des personnes qui... je pense par exemple au personnage de la série Flaked, qui est un loser qui ne fait rien, qui n'a à peu près rien accompli de sa vie. Et il y a certains moments où on pressent que oui, il a peut-être un potentiel dans les mains, sauf que le but de la série, c'est justement qu'il n'en fait rien du tout, quoi. On nous montre un mec qui se sabote lui-même, donc c'est aussi une possibilité d'être un loser dans... Alors que ce soit dans l'alcoolisme, dans la dépression ou que sais-je encore, hein, BoJack Horseman dans ce sens-là pourrait aussi s'y retrouver, même si ben, évidemment il l'a déjà réussi en quelque sorte, donc il est aussi du côté de la solitude des... de ceux qui sont au sommet, sauf qu'on sait bien que ça fait tellement longtemps qu'il est au sommet qu'il est devenu has-been depuis le temps. Ensuite, y a aussi tous les personnages où là, c'est pas un personnage, c'est une équipe, et c'est l'équipe des bras cassés qui finissent par réussir à sauver le monde. Hein. Tu vois par exemple l'agence touriste ou bien l'équipage de Firefly ou que sais-je encore. On a aussi ce type de représentation-là où on sait que c'est vraiment tout un assemblage de personnes qui sont assez exceptionnelles, qui arrivent à faire des choses géniales, qui mériteraient probablement beaucoup plus que d'être des hors-la-loi, des gens marginalisés, etc. Sauf que pour une raison ou pour une autre, ils n'ont pas eu le choix, et donc ils se retrouvent du côté des losers, même s'ils aident quand même la veuve et l'orphelin à leur temps perdu. Alors, on a la possibilité, comme on a tous ces personnages qui ont un potentiel inexploité, on va aussi souvent les retrouver du côté de la revanche sociale. Alors, que ce soit masqué, dans le sens, par exemple, de Daredevil, qui est un avocat aveugle le jour et qui, la nuit, en plus de son travail d'avocat, où il essaie déjà d'aider comme il peut, va en plus essayer de rétablir les torts, etc. Ou alors, et c'est probablement plus souvent le cas aussi, parce qu'ils sont totalement sous-évalués, et on peut par exemple penser à ces personnages à nouveau d'avocats notamment, qui sont des avocats totalement losers, qui... comme dans The Night Of ou dans la série Goliath dernièrement, qui sont soit alcooliques, soit qui ont un petit profil finalement sans grande ambition, mais qui ont un véritable savoir-faire et un potentiel de rétablir la justice qui est souvent inexploitée. Et puis enfin, ces losers magnifiques, on va aussi les retrouver beaucoup du côté soit des arnaqueurs, soit des bandits carrément, parce que il n'y a pas de meilleure revanche sociale finalement que de tomber dans l'illégalité. Et là, on est sûr de récupérer ce qui nous revient de droit, entre guillemets. Donc voilà. Finalement, comme je l'ai dit, toute cette manière de nous présenter la réussite, ça apporte un point de vue assez rassurant quant aux inégalités sociales, puisque la manière dont on nous représente la réussite n'est pas très, très gaie. On n'a pas plus envie que ça de se retrouver seul et au milieu de gens qui n'arrêtent pas de nous faire des saletés dans le dos. Donc, et par contre, on va souvent retrouver l'humanité, la gentillesse, etc. du côté des petites gens. Et donc, ça aussi, c'est probablement une manière de représenter les choses qui est un peu rassurante, même si c'est peut-être un petit peu simpliste, quoi. Voilà.
Voilà.
Oui.
Bon.
On passe à la musique.
Allez, on va faire ça.
La musique, c'est I Try de Macy Gray, entendu dans Felicity.
Games, changes and fears. When will they go from here? When will they stop? I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe. But we're not. I play it off, but I'm dreaming of you, and I'll keep my cool, but I'm feeling I try to say goodbye and I choke. I try to walk away and I stop. With you on my knee, goodbye, and I choke.
always seem all right and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front.
C'est déjà la dernière partie de cette émission Série Folie. On continue à élaborer le sujet du jour.
Oui, on continue tout de suite en parlant justement, puisqu'on a parlé des winners et des losers, de la lutte sociale qui pourrait s'engager entre les deux, puisque finalement, quand on parle de winners et de losers, en tout cas dans ce sens-là, on peut bien imaginer que c'est une notion qui est très étroitement liée au libéralisme capitaliste tel qu'on peut le connaître actuellement et depuis déjà pas mal de temps, et qui a fini par faire de la réussite socio-économique une valeur morale en soi, puisque finalement c'est elle qui va nous dire ce qu'on vaut en tant qu'individu. Et donc on peut comprendre qu'un individu comme le personnage de White Gold soit si impatient de passer pour un winner, puisque c'est ça qui va dire ce qu'il vaut en tant qu'être humain finalement. Donc c'est très très important dans ce système économique là. Ça le serait peut-être moins dans un autre système. Et finalement, je me rends compte que dans les séries, on a quand même une assez grande place pour l'imaginaire de la revanche sociale, justement. On pourrait se dire que les séries vont simplement entériner cette morale économique-là, mais c'est pas tout à fait le cas, même si, comme je l'ai dit juste avant, mais c'est vrai qu'on va avoir tendance à nous représenter les choses de manière peut-être un petit peu rassurante, mais en même temps, c'est vrai qu'on a quand même pas mal de séries qui nous présentent une certaine forme de revanche. Alors, soit sous la forme vraiment d'une remise en question directe des critères de la réussite, comme on l'appelle. Alors, Je pensais notamment, mais là, on sort du contexte purement américain, à une série comme 3%, qui là, met vraiment directement en confrontation le spectateur avec finalement l'idée de méritocratie, l'idée que certains êtres humains, ici 3% de la population, mériteraient davantage que d'autres d'avoir une vie de rêve, alors que tous les autres vivraient dans des sortes de bidonvilles. Mais on peut voir aussi dans des séries comme Breaking Bad ou Better Call Saul aussi, une certaine remise en question, il faut le dire, de ce système dans lequel ce serait forcément les plus méritants qui remporteraient la mise, quoi. Parce que mais les personnages de ces deux séries-là sont des personnages justement qui sont un peu laissés pour compte, alors qu'elles auraient toutes les capacités et toute la possibilité de véritablement être récompensé par la société, que ce soit Walter White à travers ses compétences en tant que chimiste, ou même c'est quoi encore son... Non, Jimmy McGill, ses capacités
En tant qu'avocat.
Alors évidemment, c'est vrai que c'est peut-être pas le meilleur avocat du monde, mais au minimum, il a des capacités d'empathie, notamment avec les personnes âgées, qui en fait quelqu'un de véritablement socialement utile finalement. Et ça, c'est pas du tout récompensé par la société. C'est peut-être justement ça qui le pousse de plus en plus vers la mauvaise direction. Donc, dans ces séries-là, on a une vraie remise en cause du système méritocratique, entre guillemets, qui ne semble pas vraiment être fondé sur le mérite, finalement. On va aussi avoir, dans certaines séries, une représentation des violences qu'engendre ce système dans lequel on aurait forcément des gagnants et des perdants. Et je pense beaucoup, parce que je crois que c'est vraiment une des thématiques qui est au centre de l'univers de... Brian Murphy, le créateur de Nip Tuck, de Glee, de Scream Queens, de American Crime Story, de American Horror Story et de Feud. Dans toutes ces séries-là, vraiment la question de la violence qu'engendrent les rapports de force entre les gagnants de la société et les perdants de la société est très très présente. Alors en fonction de la série, parce que certaines sont beaucoup plus beaucoup plus imaginatives que d'autres, on va le dire comme ça, ça va pouvoir partir vraiment dans une sorte de représentation d'une vengeance finalement assez sanglante, mais quelle que soit la série, en fait on a à chaque fois un vrai questionnement sur c'est quoi cette violence entre certaines classes de population et au nom de quoi elle se crée on fait quoi avec ça, comment est-ce qu'il y a moyen soit de retourner d'inverser un peu la tendance, soit d'inventer quelque chose d'autre, quoi. Mais et donc il y a vraiment beaucoup des personnages qui sont plutôt des losers et qui vont essayer de prendre leur revanche un petit peu sur la vie d'une manière ou d'une autre, et souvent pour finir par devenir eux-mêmes les bourreaux quelque part de nouvelles victimes d'ailleurs, hein. Ça c'est aussi une manière de représenter la revanche sociale. On va aussi avoir une héroïsation d'un certain nombre de figures qui sont très très présentes dans les séries. Alors ça va être l'héroïsation du redresseur de tort, du genre David contre Goliath ou bien Robin des Bois, hein. Mais ici ce sera sous quelle forme? Sous la forme de super-héros, sous la forme d'avocats, ou bien même de certains policiers qui ne sévissent que dans les milieux très très huppés, comme Columbo par exemple. Columbo qui quelque part avec son par-dessus tout râpé vient un petit peu rappeler le bon sens de la loi là où dans les milieux où finalement il se croit souvent au-dessus des lois, et donc il y a quelque chose de la revanche sociale aussi auquel on assiste à chaque nouvel épisode de Columbo grâce à cette revanche de la loi. Alors comme je l'avais dit, il y a toutes les séries avec des équipes de bras cassés, de marginaux qui se mettent ensemble pour sauver la veuve et l'orphelin, ou bien tous les personnages d'arnaqueurs et de bandits. On a aussi la figure du self-made man qui est aussi une forme de revanche malgré tout, puisque ce sont souvent des gens qui sont partis de rien et qui finissent tout au sommet. Simplement ici, finalement, le message, c'est pas tellement qu'il n'y a pas moyen d'y arriver et qu'il faut contourner le système pour y arriver, mais dans ce sens-là, le self-made man, il dit si, il y a moyen, si vraiment vous y croyez, si vraiment vous en voulez, il y a moyen d'y arriver. Donc le message n'est pas exactement le même, mais il n'empêche qu'on est aussi dans la revanche d'une certaine manière, et puis aussi dans toute l'héroïsation de la figure du geek qu'on peut constater déjà depuis un certain temps, où finalement tous ces personnages-là vengent un petit peu tous les gens qui sont un petit peu bizarres, qui ont été un peu bizutés dans leur vie, dans leur enfance ou leur jeunesse, à cause de leur intelligence. Mais là, on a dans les séries souvent la revanche de cette catégorie-là de personnes qui a été pendant tout un temps plutôt la victime de tous les autres. Et puis on a aussi des losers qui continuent à y croire malgré tout, qui vont continuer à y croire quoi qu'il arrive, tout le temps. Je pense par exemple à l'héroïne de Haters Back Off, où on a clairement quelqu'un qui n'a aucun potentiel dans ce cas-là, parce que vraiment elle chante très très mal, elle veut devenir chanteuse, elle chante horriblement mal, elle est pas belle, enfin bon, il y a rien à faire. Nous évidemment quand on la regarde, on a forcément un point de vue totalement désabusé sur son potentiel. Mais en même temps, il y a quelque chose dans le fait de continuer à y croire qui renverse un peu le message de justement « mais si vous y croyez, vous y arriverez ». Et qui fait aussi partie, j'ai l'impression, de la revanche qu'on peut imaginer. C'est-à-dire que finalement, ici, on a un personnage qui fait exactement ce qu'on attend de lui, qui croit en lui à fond. Qui va jusqu'au bout dans son rêve, sauf que nous, en tant que spectateurs, on sait que ça sert à rien, et donc ça ridiculise un petit peu cette morale-là. Donc je finirai en disant que cette représentation des losers et des winners, ça nous présente une morale du potentiel et de la foi, le potentiel que l'on a tous en chacun d'entre nous, et donc c'est une morale de l'autoréalisation. Le moyen de devenir heureux dans la vie, c'est s'autoréaliser, et pour s'autoréaliser, eh bien, il faut avoir confiance en soi jusqu'au bout, et parfois, comme je viens de le dire, jusqu'à l'absurde. Donc on a un système qui fonctionne, finalement, qui nous est représenté dans les séries, vu que les individus qui y croient ont la possibilité de l'emporter, la plupart du temps en tout cas, quand ils se dressent contre l'injustice, puisqu'on a plein d'anti-héros, de losers magnifiques qui arrivent à se poser en redresseurs de tort. On a aussi une violence entre les deux catégories qui est soit euphémisée, soit sublimée, pour rendre la victoire ou la revanche plus belle. Et donc il n'y a pas vraiment de remise en question, même si c'est vrai que dans certaines séries, on va avoir malgré tout un déterminisme soit de la chute, c'est-à-dire que les personnes qui ne sont pas récompensées par le système, comme Walter White ou Jimmy McGill, ben, ils vont mal finir, et donc là, il y aurait quand même une remise en question, ou bien dans la reproduction sociale, comme dans les séries comme The Wire, par exemple. Ou bien aussi, on a parfois, je pense notamment à la série American Crime, où on a une représentation, mais là, de la violence du discours de domination qui est assez intéressante. Il y a des dialogues dans cette série-là, où on a vraiment des personnes qui sont en situation de pouvoir, de winner par rapport à d'autres, et qui tiennent des discours absolument terribles, extrêmement violents, et c'est aussi assez intéressant. Donc voilà, ça c'est, je terminerai par dire que ben, finalement tout ça, ça remet quand même un petit peu en cause ce système, même si, par contre, dans énormément de comédies, on va avoir une représentation de personnes plutôt pauvres, plutôt laissées pour compte, etc. Je pense à The Middle, je pense à Shameless, je pense à My Name is Earl, même My Mad Fat Diary, ou que sais-je. Il y a plein de séries dans lesquelles on a des gens finalement très ordinaires, qui vivent des galères comme tout le monde, mais qui sont vraiment pas en position de winner, et on nous les présente toujours dans une sorte de position très, très euphémisée. Finalement, ils sont pauvres, mais ils sont heureux parce qu'ils sont ensemble et qui sait, mais c'est pas très critique, ça. Il faut avouer que dans la représentation de la pauvreté, on n'a pas quelque chose de très frontal, quoi. Et donc, à ce niveau-là, il y aurait peut-être moyen de faire un petit peu plus choc et donc plus critique. Voilà.
Voilà, Aurore, on te laisse conclure. C'est gentil d'avoir poussé ton raisonnement jusque-là, finalement.
De rien.
On va se quitter sans avoir rappelé, évidemment, que l'émission sera podcastée dans les prochains jours et disponible via le site internet www.seriefolie.be et via les réseaux sociaux également. On va se quitter en musique.
On va se quitter avec Underdog de Kasabian, entendu dans Misfits.
Merci Aurore, à la semaine prochaine.
Shadows. to the day that you fall. It's when you're still.